Voici Hélène Roussel, c'est l'heure du journal. Bonjour Hélène.
Bonjour. Jusqu'à la dernière goutte, faire les fonds de tiroirs, vacciner plus et plus vite. Opération coup de poing pour rattraper le temps perdu. Des dizaines de centres de vaccination ouverts 7 sur 7, à commencer par le Pas-de-Calais, seul département reconfiné depuis ce matin et pour les trois prochains week-ends. Lueur dans la nuit, les Américains se relèvent du Covid, donc oui, c'est possible. Réouverture des cinémas à New York hier soir. Dans l'actualité aussi, 4 morts dans les affrontements à Dakar, Sénégal. Encore une nuit de violence urbaine près de Lyon. Le coup de massue à Rodez après les suppressions de postes chez Bosch. Et puis une épidémie chez les chevaux. Arrêt de toutes les compétitions, ce n'est pas le Covid. Laetitia Bernard nous en dit plus dans Esprit Sport à la fin du journal.
Et à 8h20 après ce journal, question ce matin, question politique à Sandrine Rousseau, économiste de l'environnement. Elle est candidate à la primaire Europe Écologie Les Verts en vue de la présidentielle.
France Inter. Attestation de sortie, une heure de balade maximum, la vie entre quatre murs, 1,5 million d'habitants reconfinés à partir de ce matin et pour les trois prochains week-ends, un département, un seul, le Pas-de-Calais, là où le niveau de saturation des services de réanimation est au plus haut. Confinés mais aussi vaccinés, le gouvernement appuie sur le starter des dizaines de milliers de doses pour tous les plus de 50 ans avec comorbidité, des centres ouverts 7 sur 7, rien que dans le Nord et le Pas-de-Calais, 66 centres vont rester ouverts. Ouvert. Histoire aussi, Stéphane Barbereau, de rattraper le retard.
10 500 injections vont donc être réalisées aujourd'hui et demain dans le Nord, 7 000 dans le Pas-de-Calais. Le public prioritaire, ce sont les plus de 75 ans, notamment ceux qui vivent à domicile. Car c'est une spécificité de la région, les plus âgés sont plus nombreux à vivre chez eux qu'en maison de retraite où la vaccination était réalisée sur place. C'est ce qui explique que Nord et Pas-de-Calais ont été moins bien servis en vaccins jusque-là. D'où cette opération coup de poing de vaccination qui a tout d'une opération rattrapage. Les centres accueilleront donc des patients parfois dès 8h le matin et jusqu'à 18h. Des médecins, des infirmières, des pompiers réaliseront les injections. 23 centres habituels sont ouverts exceptionnellement ce week-end dans le Pas-de-Calais et 3 autres sont même créés spécifiquement à Calais, Boulogne-sur-Mer et Béthune, là où la vague épidémique est la plus forte. Des centres provisoires qui refermeront leurs portes demain soir pour les rouvrir dans 3 semaines pour réaliser les deuxièmes injections. Dans le Nord, on compte 40 centres de vaccination. Il faut obligatoirement prendre rendez-vous via le site santé.fr ou doctolib.fr.
La vaccination accélérée un peu partout car 3 millions de Français ont reçu une première injection, mais le gouvernement vise 10 fois plus d'ici l'été. Pas question donc de laisser les stocks s'entasser dans les frigos. En région parisienne par exemple, taux d'incidence inquiétant. Là, ce sont 50 000 doses qui ont été distribuées pour le week-end. Olivier Véran et Jean Castex seront d'ailleurs sur le pont tout à l'heure en visite chez les pompiers de Fleury-Mérogis qui ont monté un vaccinodrome en moins de 24 heures. Hier déjà, le ministre de la Santé se félicitait. 250 000 personnes vaccinées en une journée, un record national. Olivier Véran qui a par ailleurs mis la pression sur les soignants. 30% seulement de soignants vaccinés. Il les incite à réagir rapidement au nom de la sécurité collective. Le Covid, dit-il, est devenu la première maladie nosocomiale à l'hôpital. Cette opération coup de poing du gouvernement, c'est aussi un dossier à retrouver sur franceinter.fr. Autre mesure entrée en vigueur hier soir, la fermeture de tous les grands magasins de plus de 5 000 m² dans le Pas-de-Calais, jauge à 10 000 m² dans les 23 autres départements sous surveillance. Éviter le brassage et la concentration de population, on comprend le principe, mais au bout d'un an de sacrifice, ça devient douloureux. Reportage dans la galerie marchande près de la gare Saint-Lazare à Paris, Mathilde Vinceneuf.
Les derniers clients défilent encore dans la galerie, mais derrière la caisse de cette bijouterie fantaisie, on commence à préparer le baisser de rideau.
Faut faire le stock, faut comptabiliser, faire les caisses.
Fatou, responsable adjointe de la boutique, elle redoute cette fermeture.
On ne sait pas pour quelle durée exactement, c'est ça qui est un peu stressant en fait.
Dans ce salon de coiffure d'une grande chaîne, dernière coupe et pas mal d'angoisse. Séverine, la responsable.
Moi, j'ai trouvé un autre travail pour combler mon chômage partiel parce que je perds trop d'argent.
C'est dans la coiffure aussi là ?
Non, je suis dans la manutention.
Ah ouais ?
Moi, je travaille à Amazon. Moi, je suis toute seule avec un gamin. Hein.
Moi, personnellement, je fais du ménage.
Cindy, l'une des coiffeuses, elle a peur que cette troisième fermeture soit la dernière pour le salon.
Est-ce qu'on va fermer ? Est-ce qu'on va se retrouver sans travail ? En fait, tout ça, c'est des questions qu'on se pose au quotidien et qu'on n'a pas les réponses.
Ça y est, les lumières s'éteignent.
Bisous Sabrina, porte-toi bien.
À l'arrêt de bus, un petit groupe de vendeuses, elles travaillent dans la galerie pour une célèbre chaîne de magasins de cosmétiques.
Même pas de chômage partiel, Pôle emploi !
Parce que les points de vente qu'on me propose sont trop éloignés de mon domicile en fait.
Les seules vitrines éclairées désormais sont celles des boutiques en face, alignées le long de la rue.
Et puis des restrictions encore, alcool interdit sur le vieux port de La Rochelle par exemple, ou encore sur les quais de Seine à Paris. Un coin de ciel bleu nous parvient ce matin d'Israël. Premier concert avec plusieurs centaines de personnes hier à Tel Aviv, des spectateurs tous vaccinés. Et de New York également, les États-Unis, pays le plus touché au monde par le Covid. Voilà que les cinémas ont rouvert hier soir. Loïc Gloria a assisté aux premières séances pour nous.
À Greenwich Village, dans le sud de Manhattan, l'IFC Center est une institution toujours debout après un an de fermeture. Ce cinéma d'art et d'essai rouvrait ses portes hier. Don était là pour la première séance. J'allais au cinéma presque tous les jours. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vis à New York, s'asseoir dans le noir avec des inconnus. Aujourd'hui, c'est sûr, je vais voir au moins deux films. Debbie, elle brandit son ticket comme si c'était le Graal. Elle ne s'inquiète pas, malgré son âge, d'être enfermée avec des inconnus.
Vous ne pouvez vous asseoir qu'un siège sur deux. Tout le monde est dispersé. On porte un masque. La vie est risquée, mais j'ai 72 ans. J'ai appris à vivre avec.
Une jauge à 25% qui permet au cinéma de respirer, mais pas suffisant. Plus haut à Manhattan, pour les théâtres de Broadway, toujours fermés autour de Times Square, Charlotte Saint-Martin, la présidente de la Broadway League.
Les employés de nos théâtres sont les meilleurs au monde, mais aussi les mieux payés. Donc avec notre modèle économique, nous avons besoin que les salles soient presque pleines.
Elle se dit prudemment optimiste et espère une réouverture à la fin de l'été ou à l'automne. Et elle n'est pas la seule, puisque 100 000 emplois dépendent de Broadway. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et la Californie, elle prend rendez-vous. Réouverture de Disneyland et des stades à ciel ouvert pour début avril. Lentement mais sûrement, comme un rassurant retour à la vie d'avant.
Après Lyon, jeudi soir, encore des violences urbaines hier, tout près de Lyon, à Rieux-la-Pape.
Encore une nuit de braise du côté de Lyon. 13 voitures incendiées à Rieux-le-Pape, au moins 6 personnes interpellées, ambiance électrique depuis l'accident d'un jeune de 13 ans à scooter mercredi. Toujours entre la vie et la mort, la préfecture dément toute implication de la police, mais le parquet a ouvert une enquête. Jeudi soir, des affrontements dans le quartier de la Duchère avaient débouché déjà sur une douzaine d'interpellations. Deux jeunes doivent être présentés au juge aujourd'hui en vue d'une comparution immédiate. Lui était considéré par toutes les polices comme un ennemi public numéro 1. Depuis 6 mois, en cavale, après avoir tiré à bout portant sur deux policiers à Herblay, dans le Val d'Oise, en octobre dernier, deux policiers grièvement blessés. Un suspect âgé de 30 ans a été placé en détention provisoire hier. Lui et ses deux complices présumés, mis en examen, Emmanuel Leclerc, pour tentative de meurtre.
C'est une énième filoche, comme disent les enquêteurs de police judiciaire, qui a permis l'épilogue de cette chasse à l'homme. Une filature la nuit dernière d'un trafiquant de drogue notoire venu voir son associé recherché depuis 6 mois. Un suspect caché dans son appartement loué sur Airbnb à Clichy-la-Garenne près de Paris et que les policiers ont interpellé sans aucune résistance. Éric Corbeau est le procureur de Pontoise.
C'est une traque qui a porté ses fruits puisque maintenant les trois suspects ont été interpellés. Ils ont aussi bénéficier bien sûr d'appui, d'aide de leurs proches, parfois de leur famille. Là, l'essentiel pour nous était d'abord que soient interpellées les personnes suspectées d'avoir tiré sur les fonctionnaires de police.
Les recherches ont mené les enquêteurs jusqu'en Belgique dans cette affaire, mais finalement c'était une fausse piste. Comme c'est souvent le cas, les criminels en cavale restent cachés près de chez eux, à quelques kilomètres donc seulement d'Herblay, où le 7 octobre dernier, vers 22h, deux policiers qui vérifiaient une adresse d'un hangar suspect sont surpris par trois individus, se font voler leur arme de service et tirer dessus à plusieurs reprises. Hier soir encore, un enquêteur rappelait que c'était bien des balles pour tuer des flics.
Emmanuel Leclerc, Rodez sous le choc, c'était son premier employeur. Le géant allemand de l'automobile Bosch supprime 750 postes sur 1200. Indispensable, explique le patron, dans le contexte actuel avec la vente de moteurs diesel en chute libre. Heiko Carrier, le président de Bosch France.
Nous sommes confrontés avec multiples problèmes, surtout dans l'automobile déjà, après la Covid, et il s'ajoute bien évidemment la situation du diesel. Mais on a dit c'est une option qu'on ne veut pas mettre en place parce qu'on croit aux collaborateurs, on croit en la capacité, à la capacité de ce site et on croit à son avenir. Après, le site avec 500 personnes est au même niveau que les autres sites Bosch en Europe de l'Ouest. On peut effectivement, à un niveau de 500 personnes, bien survivre d'être compétitif.
Ça aurait pu être pire, donc difficile à entendre pour le maire de Rodez, Christian Tessèdre.
Pour moi, c'est une très mauvaise nouvelle. Je dirais même que c'est une trahison. Parce que depuis 10 ans, On demande au groupe Bosch de se diversifier. La mono-industrie qui consiste sur un site à ne fabriquer que des injecteurs, ça ne me paraît pas souhaitable dans la durée. Donc depuis 10 ans, notamment les 3 dernières années, ils nous ont dit qu'ils allaient diversifier le site. Or aujourd'hui, ils annoncent ni plus ni moins la suppression de 700 emplois à horizon 2025. Ça concerne pas Rodez, ça concerne tout l'Aveyron puisqu'ils sont très dispersés sur le territoire. L'impact va être important.
Réaction recueillie par France Bleu Occitanie. Une trêve de 4 mois dans un conflit vieux de 17 ans. Européens et Américains se sont mis d'accord hier soir pour suspendre les droits de douane respectifs qu'ils appliquent sur Boeing et Airbus, chacun accusant l'autre de verser des aides publiques illégales. À l'étranger, le Sénégal plonge dans la violence. 4 morts à Dakar dans les affrontements qui opposent les jeunes aux forces de l'ordre depuis 3 jours. Depuis que l'opposant Ousmane Sonko a été arrêté, procédure pour viol. Sa garde à vue a été prolongée hier. Les manifestants dénoncent un complot, réclame sa libération. Le gouvernement lui affiche sa fermeté. Tous les moyens seront bons, dit-il, pour ramener l'ordre. L'espoir d'une vie politique apaisée, en revanche, en Côte d'Ivoire. 7 millions d'électeurs appelés à choisir leurs députés aujourd'hui. 4 mois après les violences autour de la présidentielle. Une campagne sans incident. Pour la première fois même depuis 10 ans, pas de boycott. Tous les candidats participent. Et puis toujours à l'étranger, après la cathédrale de Bagdad hier, la maison du grand ayatollah chiite Ali Sistani à Najaf ce matin, le pape François poursuit son chemin en Irak. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial dans le journal de 9h. Enfin, le premier pas, j'aimerais qu'il fasse le premier pas. Et bien ça y est, le rover de la NASA, Perseverance, a fait tourner ses roues sur Mars pour la première fois depuis son atterrissage. Il s'est déplacé de quelques mètres, il a reculé. Le petit robot alors a pu prendre une photo de ses propres traces, des empreintes sur le sol martien, le début de l'aventure. Quoi. Ouais.
Et les aventures purement sportives, eh bien c'est maintenant.
On attaque avec du foot PSG à Brest ce soir. 16e de finale de la Coupe de France. Un match qui signe les retours sur la pelouse d'Mbappé, Di Maria et Verratti. Et à 4 jours aussi du choc retour avec Barcelone, les Parisiens gonflés à bloc. Le Paris Saint-Germain hier annonce avoir dépassé la barre des 100 millions de fans sur les réseaux sociaux. Paris dans le top 10 mondial des clubs de foot les plus suivis. Un peu magique, Bruno Salomon.
2 chiffres pour comprendre l'ascension fulgurante du PSG sur les réseaux sociaux. Il y a 10 ans, sur son compte Facebook, Paris avait seulement 500 000 followers. Désormais, il y a 42 millions de fans sur la page officielle d'un club qui aujourd'hui est partout, YouTube, Twitter, Instagram ou encore TikTok. Le PSG joue dans la catégorie des très grands en foot numérique. Anthony Bacca est le directeur adjoint du digital au PSG.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 10 ans, lorsqu'on était entre 500 et 1 million de fans, on avait 5% de fans étrangers et 95% de fans français. 10 ans plus tard, cette proportion s'est inversée. Ça veut dire qu'on a 95% de fans étrangers et 5% de fans français.
Paris a désormais plus de fans sur les réseaux au Brésil ou encore en Indonésie qu'en France, mais Paris assume, et d'ailleurs nombreux sont les contenus en langue étrangère. En faisant cela, le club a une stratégie digitale très précise en tête.
À travers le contenu, à travers les vidéos, les visuels, tout ce qu'on est amené à publier, on arrive à créer une communauté. Et puis ensuite, on crée un fan club. Ensuite, on va créer peut-être une académie. Et puis peut-être que demain, dans ce territoire-là, on va trouver un partenaire.
Avec sa barre des 100 millions de fans sur les réseaux sociaux, le PSG l'explique, il ne veut pas s'arrêter là. La place de numéro 1 l'intéresse. Le leader incontesté, c'est le FC Barcelone. Et le PSG compte bien un jour ou l'autre le détrôner.
Bruno Salomon. Et en attendant, PSG Brest, eh bien c'est ce soir à 21h10. Allez, on passe à notre esprit sport. Consacré ce matin à une épidémie qui met le monde du cheval par terre. Terminer les compétitions en France et dans toute l'Europe, au moins jusqu'à la fin du mois. Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
Alors non, ce n'est pas le Covid chez le cheval, mais un autre virus tout aussi contagieux pour l'animal, la rhinopneumonie équine, contagieux et dangereux.
Les premiers cas ont été détectés il y a 15 jours au concours hippique international de Valence en Espagne, un événement qui dure plusieurs semaines et auquel de nombreux cavaliers français ont participé. Parmi eux, le champion olympique par équipe 2016, Philippe Rosier, très éprouvé lorsque son partenaire de Rio, Raotep de Toscane, est tombé malade en début de semaine. Il a donné l'alerte sur les réseaux sociaux.
Toute l'écurie s'est mobilisée pour Raotep. On l'a veillé toute la nuit. Voilà. Donc, faites attention à vous, faites attention à vos chevaux. Et puis, prenez... Voilà. Faites très attention.
Alors au final, Raotep a lui été testé négatif, mais cela vous donne une idée de l'inquiétude ambiante, parce que la forme de la rhinopneumonie équine en circulation est un variant méconnu. Il touche le système nerveux, les chevaux ne peuvent plus tenir debout. De nombreux cas sont signalés dans différents endroits désormais chaque jour. Mais le principal cluster reste à Valence, où près de 150 chevaux sont toujours à l'isolement. Près des deux tiers sont malades, quatre sont décédés. Jérôme Thévenot est vétérinaire en charge du saut d'obstacles pour la Fédération française d'équitation.
Ceux qui sont transportables sont évacués dans des cliniques pas trop loin si possible, en Espagne. Le problème, c'est que c'est un peu comme pour les hôpitaux chez l'homme, c'est qu'on a vite une saturation des services d'urgence dans les cliniques. Donc c'est là où on est un petit peu à la limite de ce qu'on peut faire.
Et oui, ce sont des situations qui nous parlent. Alors l'objectif à présent, c'est de rapatrier les chevaux français encore bloqués à Valence et surtout d'enrayer l'épidémie. Bah, pour cela, on limite les déplacements comme pour les hommes. Et voilà pourquoi il n'y aura pas de nouvelles compétitions en France et en Europe, au moins jusqu'au 28 mars.
Ouais, variants, saturation des services, voilà. Limiter les déplacements, c'est vrai que ça nous dit quelque chose. Merci Laetitia Bernard.
Dans le journal d'Hélène Roussel, Le Temps.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Avec une France coupée en deux, Jean-Michel Gonaski.